Chapitre 9. En haut, dans la cité. Des motifs en nid d'abeilles couleur sang emplissaient les ténèbres. Tout était chaud, et doux également, surtout doux. « Quel bordel !» dit un des anges, d'une voix éloignée mais grave, aux tonalités riches et limpides. « Nous aurions dû l'alpaguer devant chez Léon, » dit l'autre ange. « Ça ne va pas trop plaire au patron. Il devait avoir quelque chose dans cette grosse poche, là, tu vois. Ils l'ont tailladé pour l'en sortir. Ils n'ont pas tailladé que ça, ma grande. Merde ! Là !» Les dessins s'élevèrent, puis plongèrent lorsqu'on lui bougea la tête, une paume froide contre sa joue. « Ne t'en mets pas sur la chemise !» dit le premier ange. « Deparjour ne va pas être content. Pourquoi il a pris peur et s'est enfui comme ça, à ton avis ?» Ses visions l'énervaient parce qu'il voulait dormir. Il était forcément déjà endormi, mais sans qu'il sache comment, les rêves branchés de Marsha débordaient dans sa tête et il dégringolait à travers des scènes de « People of Importance ». La série était diffusée en continu depuis avant sa naissance. Son intrigue polycéphale, tel un ténia qui s'enroulait pour se dévorer lui-même plusieurs fois par an, puis créait de nouvelles têtes pleines d'ambition et de stress. Il le voyait se tordre dans sa totalité, comme Marsha ne le verrait jamais. Une spirale allongée d'ADN de SenseNet, fragile ectoplasme de pacotille, délayé pour d'innombrables rêveurs avides. Marsha y accédait en ce moment par le point de vue de Michelle Morgan Magnum, la protagoniste féminine, héritière à la tête de Magnum AG. Mais étrangement, l'épisode du jour s'éloignait des relations amoureuses d'une complexité folle de Michelle que Bobby n'avait de toute façon jamais réussi à suivre et s'attaquait à des descriptions socio-architecturales précises d'archéologie à revenu de base version Soleri. Certains détails semblaient suspects, y compris à Bobby. Il doutait, par exemple, qu'il y ait vraiment des niveaux entiers dédiés à la vente de costumes en velours bleu pâle avec des genouillères couvertes de diamants, ou qu'il existe d'autres étages, à jamais plongés dans le noir et exclusivement habités par des bébés affamés. Marsha, lui semblait-il se souvenir, y avait toujours cru et considérait la cité avec horreur et superstition, comme s'il s'agissait d'un immense enfer vertical dans lequel elle risquait d'être un jour obligée de monter. D'autres parties du rêve branché lui rappelaient la chaîne du savoir, que SenseNet offrait avec chaque abonnement à la Steam. On y voyait des diagrammes animés et détaillés de la structure intérieure de la cité et des monologues soporifiques en voix off sur les styles de vie de divers types de résidents. Lorsqu'il parvint à se concentrer dessus, il s'aperçut qu'il paraissait encore moins convaincant que les apparitions de velours bleu clair et les bébés abandonnés qui rampaient en silence dans le noir. Il regarda une jeune mère, enjouée, trancher une pizza avec un immense découpeur jet d'eau dans le coin cuisine d'un studio. Une cloison absente donnait sur un étroit balcon et un rectangle de ciel bleu de bande dessinée. La femme était noire sans lettres, sembla-t-il à Bobby, comme une version très bronzée, jeune et maternelle d'une des poupées porno de l'appareil dans sa chambre. Elle paraissait posséder les mêmes petits seins parfaits et irréels. À ce stade, pour le perturber un peu plus, une voix extrêmement forte et qui ne ressemblait en rien à celle du réseau dit
« Ça, c'est un signe de vie, Jackie. Il y a au moins quelque chose qui s'est redressé, même si ce n'est pas son pronostic vital. »
Puis, il replongea en tourbillonnant dans l'univers de paillettes de Michelle Morgan Magnum, qui tentait désespérément d'empêcher l'OPA sur Magnum AG par le sinistre clan industriel Nakamura de Shikoku, représenté en l'occurrence, complexification de l'intrigue, par l'amant actuel de Michel, le riche mais qui n'avait de cesse d'amasser les milliards, Vassili Souslov. Un jeune politicien néo-soviétique qui ressemblait et s'habillait exactement comme les gothiques de chez Léon. L'épisode sembla atteindre une sorte de point culminant. Une vieille BMW à essence convertie au solaire avait été mitraillé par de petits hélicoptères ouest-allemands autonomes dans la rue sous Kovina Concourskurz. Michel Morgan Magnum frappait sa traîtresse de secrétaire avec la crosse d'un pistolet Nambu plaqué de nickel et Souslov, auquel Bobby commençait à s'identifier de plus en plus, se préparait sans empressement à quitter la ville avec une superbe garde du corps japonaise qui rappelait beaucoup à Bobby une autre des filles de rêve de son appareil d'holoporno. Quand un cri retentit. Il n'avait jamais entendu quiconque hurler ainsi, et la voix avec quelque chose d'affreusement familier. Mais avant qu'il ne puisse s'en inquiéter,
les nids d'abeilles ensanglantés se remirent à tourbillonner et lui firent manquer la fin de People of Importance. Il parvint tout de même à se dire, lorsque le rouge devint noir, qu'il pourrait toujours demander à Marsha comment l'épisode s'était terminé. « Ouvre les yeux, mec. C'est ça. La lumière est trop forte ?» C'était le cas. Mais elle ne diminua pas. Blanc. Blanc. Il se rappela sa tête qui explosait à des années d'ici. Une grenade d'un blanc éblouissant dans les ténèbres de ce désert, au vent froid. Il avait les yeux ouverts, mais il n'y voyait rien. Que du blanc. « D'ordinaire, je t'aurais laissé dormir, gamin, vu ton état. Mais ceux qui me payent pour ça m'ont dit de ne pas traîner, alors je te réveille avant d'avoir fini. Tu dois te demander pourquoi tu n'y vois rien, hein? Rien que de la lumière, c'est tout? On a un coupe-circuit neuronal, là. Bon, entre nous, ce truc vient d'un sex-shop, mais on peut tout de même l'utiliser en médecine au besoin. Et c'est nécessaire parce que tu souffres encore et que... ça te maintient immobile pendant que je bosse. » La voix était calme et méthodique. « Ton gros problème, c'était ton dos. Je m'en suis occupé avec une agrafeuse et quelques centimètres de griffes. Pas de chirurgie esthétique, tu comprends, mais les nanas trouveront ces cicatrices super attirantes. Là, je suis en train de nettoyer celle sur ta poitrine, puis je vais ajouter une griffe là, en bas, et ce sera fini. Sauf que tu ferais mieux d'y aller mollo pendant un jour ou deux, si tu ne veux pas faire sauter d'agrafe. Je t'ai posé quelques patchs et je vais en mettre d'autres. En attendant, je vais relier ton sensorium à l'audio et au visuel, pour que tu sois ici. Ne fais pas gaffe au sang, c'est le tien, mais il ne coule plus. » Le blanc devint un nuage gris, les objets prenant forme avec la lenteur d'un trip. Il était allongé contre un plafond rembourré et regardait vers le bas, un mannequin blanc taché de sang qui n'avait pas du tout de tête, rien qu'une lampe de chirurgie bleu-vert qui paraissait sortir de ses épaules. Un noir dans une blouse verte tachée projetait quelque chose de jaune dans une mince entaille qui partait en diagonale de l'os de la hanche de la poupée et s'arrêtait juste en dessous de son téton gauche. Bobby savait que l'homme était noir parce qu'il avait la tête nue, nue et rasée, couverte de sueur. Des gants moulants verts recouvraient ses mains, et Bobby ne voyait de lui que le sommet de son crâne. Il y avait des patchs roses et bleus collés à la peau des deux côtés du cou du mannequin. On aurait dit que les bords de la blessure avaient été peints avec une sorte de crème au chocolat, et le spray jaune sifflait en sortant du petit tube argenté. Puis, il comprit, et l'univers s'inversa en lui soulevant le cœur. La lampe était suspendue au plafond, le plafond était un miroir et il était le mannequin. Il eut l'impression d'être ramené par une longue corde élastique à travers les nids d'abeilles rouges jusqu'à la salle de son rêve où la fille noire tranchait la pizza pour ses enfants. L'appareil de découpe était complètement silencieux, des projections microscopiques en suspension dans le jet fin de l'eau à grande vitesse. Bobby le savait conçu pour tailler du verre et des métaux, pas de la pizza surgelée. Et il avait envie de lui crier dessus, car il craignait qu'elle se coupe le pouce sans même s'en rendre compte. Mais il ne pouvait pas hurler, il était incapable de bouger ou d'émettre le moindre son. Elle trancha la dernière part avec amour, appuya du pied sur la plaque qui éteignait le découpeur, plaça la pizza sur un plat en céramique blanc, puis se tourna vers le rectangle bleu au-delà du balcon où se trouvaient ses enfants. « Non !» dit Bobby tout au fond de lui, « pas possible !» Car les choses qui roulaient et plongeaient dans sa direction n'étaient pas des gamins en deltaplane, mais des bébés, les monstrueux bébés du rêve de Marsha, et les ailes déchirées, un fouillis d'os rose, de métal, des membranes tendues et rapiécées en plastique. Il vit leurs dents. « Oh là !» dit le noir, « je t'ai perdu un instant. » Pas longtemps, bien sûr, à peine une seconde. Ses mains, dans le miroir au-dessus, prirent un rouleau plat de plastique bleu transparent sur le tissu ensanglanté près des côtes de Bobby. Délicatement, avec le pouce et l'index, il tira une longueur d'une sorte de plastique marron orné de perles. De minuscules points de lumière étincelèrent sur ses rebords et semblèrent trembloter et bouger. « La griffe !» dit-il. Et de l'autre main, il appuya du pouce sur une lame intégrée au rouleau bleu. Le morceau de matière perlée libéré commença à se tordre. Du bon matos, précisa-t-il en le ramenant dans le champ de vision de Bobby. Tout récent. C'est de ça dont ils se servent à Chiba maintenant. C'était marron, sans tête, chaque perle un segment corporel, chaque segment doté de pattes pâles et brillantes. Puis, avec ses gants verts, dans un geste de prestidigitateur, il posa le mille-pattes sur la longueur de la blessure ouverte et pinça délicatement la dernière partie, la plus proche du visage de Bobby. Lorsque ce segment se détacha, un petit fil noir et luisant qui servait de système nerveux à la créature se rétracta et chaque paire de pattes vint s'accrocher comme des griffes sur la peau qu'elles rattachèrent comme une fermeture éclair sur une veste en cuir toute neuve. « Là, c'est bon !» dit le noir en essuyant ce qui restait de crème marron avec un coton blanc et humide. « C'était pas si terrible, hein ?» Son entrée dans l'appartement de deux par jour ne ressembla en rien à ce qu'il s'était si souvent imaginé. Pour commencer, il n'avait jamais envisagé d'arriver dans un fauteuil roulant emprunté à la maternité de Sainte Mary. Le nom de l'établissement et un numéro de série étaient inscrits au laser dans le chrome terne de l'accoudoir gauche. La femme qui le poussait n'aurait en rien déparé dans un de ses fantasmes. Elle s'appelait Jackie, était une des deux filles de la cité qu'il avait vue chez Léon et, avait-il fini par comprendre, un de ses deux anges. Le fauteuil glissait en silence dans l'étroite entrée à la moquette grise et rugueuse, mais les bijoux dorés sur le chapeau mou de Jackie cliquetaient gaiement tandis qu'elle le faisait avancer. Et il n'avait jamais imaginé la turne de deux par jour aussi grande ou remplie d'arbres. Paille, le médecin qui avait bien pris soin de lui expliquer qu'il n'était pas médecin, mais simplement quelqu'un qui aidait parfois, s'était rassis sur un tabouret de bar tordu dans la salle d'opération improvisée et avait retiré ses gants verts, allumé une cigarette mentholée et avait conseillé, sur un ton solennel à Bobby, d'y aller vraiment mollo pendant une semaine ou deux. Quelques minutes plus tard, Jackie et Rhea, l'autre ange, lui avaient passé un pyjama noir froissé qui semblait tout droit sortir d'un kino de ninja de série Z, l'avait installé dans la chaise roulante et avait pris la direction du réseau central d'ascenseurs au cœur de l'arcologie. Grâce à trois autres patchs de l'armoire à pharmacie de paille, dont un qui lui avait administré 2000 microgrammes d'un analogue de l'endorphine, Bobby était éveillé et ne ressentait aucune douleur. « Où sont mes affaires ?» avait-il protesté, tandis qu'elle le faisait avancer dans un couloir qui devenait de plus en plus étroit après des décennies d'ajouts de tuyauterie. « Où sont mes habits ? Mon interface et tout le bordel ?» « Tes fringues, chérie, ou ce qu'il en reste, sont dans une poche plastique que Paille va jeter. Il a dû les couper sur la table d'opération et ils ne ressemblaient déjà plus qu'à des chiffons ensanglantés. Si tu portais ton interface sur ton dos dans ta veste, j'imagine que ceux qui t'ont attaqué te l'ont piqué. Ils t'ont laissé pour mort. Et t'as niqué mon chemisier Sally Stanley, sale petit con !» L'ange Rhea ne semblait pas super sympa. « Ah, d'accord. » dit Bobby tandis qu'elle prenait un virage. « Et vous n'auriez pas trouvé un tournevis quand même, ou une puce de crédit ?»«
Pas de puce, chérie. Mais si le tournevis est celui avec 210 nouveaux yens dans le manche, alors ça tombe bien, parce que c'est pile le prix d'un chemisier neuf. »
Deux par jour ne paraissait pas vraiment ravi de voir Bobby. En fait, on aurait même dit qu'il ne le voyait pas du tout. Il ne s'attarda pas sur lui et se concentra uniquement sur Jackie et Rhea en leur montrant les dents dans un sourire tout en air et en manque de sommeil. Elles approchèrent Bobby assez près pour qu'il puisse s'apercevoir que les yeux jaunis de deux par jour semblaient presque oranges sous la lueur rose-pourpre des tubes de lampes de croissance qui paraissaient pendre au hasard du plafond.
« Qu'est-ce que vous foutiez, les pétasses ?»
demanda le fourgue sans la moindre trace de colère dans la voix, rien que de l'épuisement et autre chose. Quelque chose que Bobby n'identifia pas tout de suite. « C'est à cause de paille, » dit Jackie en contournant le fauteuil d'une démarche assurée, pour aller prendre un paquet de cigarettes chinoises sur l'énorme plaque de bois qui servait à deux par jour de table basse. « Il est perfectionniste, ce vieux paille. Il a fait l'école de vétérinaire, » ajouta Rhea à l'intention de Bobby, sauf... En général, il est tellement défoncé que personne ne lui confie son chien.
« Bon, » dit deux par jour en posant enfin le regard sur Bobby, « tu vas t'en sortir. »
Et ses yeux étaient si froids, si fatigués et austères, si éloignés du rôle de revendeur agité et grande gueule que Bobby prenait pour sa véritable personnalité, qu'il ne résista pas et baissa le regard, le visage rouge, pour le fixer sur la table. D'une longueur de près de 3 mètres et d'un peu plus d'un mètre de large, elle reposait sur des poutres plus épaisses que les cuisses de Bobby. Elle avait dû passer du temps dans l'eau. Certains morceaux conservaient encore la patine délavée du bois flotté, comme le rondin près duquel il se rappelait avoir joué autrefois à Atlantic City. Mais elle était au sec depuis longtemps et accueillait une dense mosaïque de couleurs de bougies, de taches de vin, de marques d'émail noir aux formes bizarres et de centaines de traces de brûlures de cigarettes. L'encombrement de nourriture, de déchets et de gadgets était tel qu'on aurait dit qu'un vendeur à la sauvette y avait déployé sa marchandise avant de décider d'aller dîner. Il y avait des restes de pizza aux boulettes de krill qui baignaient dans une sauce rouge et qui firent gargouiller l'estomac de Bobby, près de piles de logiciels qui menaçaient de s'effondrer, des verres sales où trempaient des mégots éteints dans un fond de vin, un plateau en polystyrène rose couvert de rangées bien alignées de petits fours moisis, des canettes de bière, certaines ouvertes, d'autres fermées, un vieux couteau de combat Gerber sorti de son fourreau et posé sur un bloc de marbre. Au moins 3 pistolets et peut-être 2 douzaines de mystérieuses pièces détachées d'interface, le genre d'équipement de hacker qui aurait, en temps normal, fait saliver Bobby. Ce dont il rêvait pour l'instant, c'était d'une part de pizza au krill froide, mais sa main restait supplantée par l'humiliation soudaine ressentie, en s'apercevant que 2 par jour n'en avait rien à faire de lui. Bobby ne l'avait jamais vraiment considéré comme un ami. Mais il se plaisait tout de même à croire que 2 par jour l'estimait un minimum, comme quelqu'un doté de talent et d'initiative qui avait une chance de quitter un jour Barrytown. Mais le regard de 2 par jour lui apprenait qu'en plus d'être un Wilson, il n'avait aucune importance. « C'est ici que ça se passe, mon pote », dit quelqu'un qui n'était pas 2 par jour. Et Bobby leva les yeux. 2 autres hommes entouraient le fourgue sur l'épais canapé de chrome et de cuir, tous les 2 noirs. Celui qui venait de parler portait une sorte de peignoir gris et de vieilles lunettes à la monture en plastique, carrée et trop grande, qui ne semblait même pas équipée de verre. Le second, 2 fois plus large d'épaules que 2 par jour, était vêtu du genre de costume de pièce que l'on voyait sur des hommes d'affaires japonais dans des kinos. Ses poignets mousquetaires d'un blanc immaculé étaient fermés par des boutons de manchette en micro-circuit doré. « Dommage que nous ne puissions pas te laisser un peu de temps pour te remettre, » dit le premier. « Mais nous avons un gros problème. » Il se tut un instant, retira ses lunettes et se massa l'arête du nez. « Nous avons besoin de ton aide. »« Merde, » dit 2 par jour. Il se pencha en avant, prit une cigarette chinoise dans le paquet sur la table, l'alluma avec un crâne en étain de la taille d'un gros citron, puis s'empara d'un verre de vin. L'homme aux lunettes tendit un mince index brun qu'il posa contre le poignet de 2 par jour. Celui-ci lâcha le verre et s'adossa en s'efforçant de rester impassible. L'homme adressa un sourire à Bobby. « Compte 0 », dit-il. Il paraît que c'est ton surnom. C'est bien ça, parvint à répondre Bobby d'une voix enrouée. Il nous faut des infos sur la Vierge, comte. L'homme attendit. Bobby plissa les yeux. Vierge miracle. Et il remit ses lunettes. Notre-Dame Vierge des miracles. Nous la connaissons, et il fit un signe de la main gauche, sous le nom Desili Freda. Bobby prit conscience qu'il avait la bouche ouverte et il la referma. Les 3 visages sombres attendaient. Jackie et Rhea avaient disparu sans qu'il s'en aperçoive. Il sentit une certaine panique monter en lui et il jeta un regard désespéré à l'étrange forêt d'arbres rabougris qui les entourait. Les tubes de lampes branches partaient dans toutes les directions, sous tous les angles, bâtons de mikado d'un rose violacé suspendu parmi des feuilles vertes. Pas de mur. On ne discernait pas la moindre cloison. Le canapé et la petite table étaient posés dans une sorte de clairière au sol de béton brut. « Nous savons qu'elle est venue te voir, » dit le plus baraqué en croisant doucement les jambes. Il lissa un pli de son pantalon et Bobby aperçut l'éclat d'une manchette dorée. « Nous sommes au courant. Tu comprends ?»« D'après 2 par jour, c'était ta première plongée, » dit l'autre. « C'est vrai ?» Bobby acquiesça. « Alors, tu as été désigné par l'Egba, » affirma l'homme en retirant ses lunettes vides, « pour rencontrer Vieshmirak. » Il sourit.
Bobby avait de nouveau la bouche ouverte. L'Ekba, poursuivit l'homme, maître des routes et des chemins, le Loa de la communication. De par jour écrasa sa cigarette sur le bois abîmé, et Bobby remarqua que sa main tremblait.